Bonjour à tous, c'est un énorme fiasco qui fait trembler le football français. Après avoir acheté à prix d'or les droits télé du championnat, le groupe Mediapro se retire du jeu, plongeant les clubs dans la panique et au final, c'est Canal+ qui ramasse la mise. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Benoît.
Vous avez enquêté sur les relations tumultueuses entre le football et la télévision ces 40 dernières années et vous allez nous dire comment on en est arrivé là.
France Inter, secret d'info. Benoît Colomba.
Pour l'instant, une grande nouveauté, le premier numéro de notre nouveau magazine sportif Téléfoot 1. C'est important car c'est la première fois qu'une chaîne de télévision consacre un magazine au football, un sport qui vous passionne toutes et tous.
Voilà, c'était le 16 septembre 1977, le tout premier numéro du magazine Téléfoot sur la première chaîne de télévision. Notre époque, l'argent des droits télé n'a pas encore bouleversé le monde du football. Près de 40 ans plus tard, la situation est bien différente, comme on l'a vu récemment avec le scandale Mediapro. Et justement, pour commencer, Sylvain Tronchet, il faut d'abord rappeler ce qu'est exactement Mediapro.
Eh bien, Mediapro, c'est une société espagnole qui avait acquis le droit de diffuser le championnat de France, la Ligue 1, pour un montant record en 2018. L'appel d'offres avait été adjugé à plus d'un milliard d'euros par an. Sauf que Mediapro s'est avéré incapable d'honorer son contrat. Et depuis, certains clubs sont en danger de mort, m'a expliqué Christophe Lepetit. Il est le responsable des études économiques au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges.
Les droits télévisuels représentent en moyenne 55% des ressources des clubs. Donc on parle bien de ce qui constitue le principal pilier de l'économie des clubs professionnels de football français aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'à très court terme, on est dans une situation d'urgence vitale. Il pourrait y avoir des clubs qui se retrouvent en grosse difficulté de trésorerie, pouvant aller, dans l'hypothèse la plus pessimiste, jusqu'à une disparition pure et simple de certains clubs.
Donc, sans droit télé, les clubs ne peuvent plus fonctionner, mais est-ce que ça a toujours été comme ça ?
Non, dans les années 70, la télé est même accusée de vider les stades et les présidents de clubs ne veulent pas des caméras chez eux. Et puis, on ne peut pas dire non plus que la télé veuille vraiment du foot. En 1977, un homme qui s'appelle Jean-Claude Darmon imagine un magazine télévisé consacré au football, Téléfoot. Darmon, qui va devenir l'intermédiaire incontournable du foot français, va tenter de le vendre à Antenne 2, qui est la chaîne du sport à l'époque, avec ses deux journalistes emblématiques, Robert Chapat et Roger Couder. Darmon va donc tenter de les convaincre.
Je me pointe avec mon projet, et donc je vais voir Chapat et je lui vends le Téléfoot. Robert, c'est vraiment la foot du football. Robert, ce qui l'intéresse, c'est le cyclisme. Et d'un coup, se lève Couder. Ça sert à quoi, ça ? Mais à rien, ça intéresse personne. On n'en veut pas, etc. Il me reste à aller voir TF1.
Et il va donc voir TF1. Quelques mois plus tard, c'est la naissance de Téléfoot. Mais le vrai décollage du foot à la télé, c'est 1984 en fait, avec l'arrivée de Canal+. Et si la nouvelle chaîne payante s'intéresse au foot, c'est qu'elle a un problème, m'a raconté son ancien dirigeant Pierre Lescure.
Il s'agit de monter une chaîne qui sera basée sur le cinéma. On a à peu près 6-8 mois de négociations avec toutes les instances du cinéma de l'époque. Et à la fin des négociations, il s'avère qu'on ne va pouvoir diffuser que 50% de cinéma. Ça va être un peu coton. Donc, on gamberge, et Bernard Brochand, qui était à l'époque patron de la pub à Havas, notre principal actionnaire, a l'idée de dire « Mais pourquoi on n'essaierait pas de voir avec les gens du foot ?»
Et donc, l'équipe de Canal+, va voir les responsables du foot, et là, il y a une grosse interrogation.
Oui, parce que tout le monde est d'accord sur le principe de diffuser le championnat, donc du foot, en direct, toutes les semaines. C'est révolutionnaire, pour l'époque. Mais ça coince sur une question. Combien vaut un match ? Les négociations sont un peu compliquées. Et alors qu'il discute avec les dirigeants de Canal, Jean-Claude Darmon, qui représente la Ligue, donc les clubs professionnels, a une idée.
Pendant la conversation, je leur dis, alors, faisons autrement. Vous me donnez 25 000 francs par match pour un abonné. S'il y en a 100 000, vous me donnez 30 000. Et s'il y a 1 million d'abonnés, vous me donnez 700 000. Et là, on est au million d'abonnés. Personne n'y croit. Il n'y a que moi qui y crois. Je crois que c'est 14 mois plus tard. On a 1 million d'abonnés. Et alors que je les avais fait rire, là je suis mort de rire. Parce qu'on vient d'avoir le gros lot.
Le gros lot, 1 million d'abonnés et donc des droits télé qui flambent. Ce qu'on comprend, c'est que c'est à ce moment-là que la télé commence à rapporter de l'argent au football.
Oui, effectivement, on n'est pas encore dans les sommes affolantes qui vont suivre, mais tout le monde comprend bien qu'il y a un marché qui s'ouvre. On est entre gens qui se connaissent, se comprennent, et le couple foot-télé fait un mariage d'argent, comme le raconte Pierre Lescure.
On a été amené à aider des clubs en leur préachetant, par exemple, des droits de Ligue des Champions, pour les aider à investir et à acheter certains joueurs. Ça, on était un, quand, je vais pas dire le grand argentier, mais on a été avec le foot ce que très longtemps Canal a été au-delà de ses obligations avec le cinéma.
Secret d'info sur France Inter.
Bien, alors, en quelques années, Canal+ est donc devenu indispensable au football français. Mais Sylvain Tronchet, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrent sérieux à l'époque ?
Il n'y en a aucun jusqu'en 1999. Après 15 ans de monopole, TPS, comme télévision par satellite, une filiale de TF1 et M6, décide de concurrencer Canal sur le foot. Pour la première fois, il faut donc organiser un appel d'offres pour savoir qui aura le droit de diffuser le championnat de France. Les deux chaînes font une offre, et là, Pierre Lescure se souvient que c'est la stupeur dans le camp de Canal.
On a sans doute péché par l'habitude confortable du monopole, et donc TPS avait mis plus que nous sur la table. Alors ça a fait beaucoup d'émulsions, parce qu'à ce moment-là, la Ligue s'est réunie en conseil de guerre, qui se sont dit... On est en train de jouer avec les allumettes. Il est impensable que TPS puisse, d'un seul coup, avoir autant d'abonnés de Canal. Donc, ils vont avoir du mal à nous payer. C'était presque un média pro avant l'heure. Ils se sont effrayés eux-mêmes. Il y a eu un deuxième tour et il y a eu, en fait, un partage du foot entre TPS et nous.
Ah oui, donc la Ligue de football décide de refaire l'appel d'offres parce que le résultat ne lui convient pas et donc le gâteau est finalement partagé en deux. En fait, Canal+ a retourné la situation à son avantage.
Oui, parce que ce que ne dit pas Pierre Lescure, c'est que Canal a su à l'époque jouer de toute son influence sur le foot français, sur certains présidents notamment, pour garder une partie des droits télé. Et 4 ans plus tard, en 2004, quand les droits sont de nouveau en vente, cette fois-ci, Canal met très cher sur la table, 600 millions d'euros par saison. Du coup, TPS est éliminé, balayé et va finir par disparaître. Mais à ce moment-là, on se demande si Canal ne va pas être victime de ce que l'on appelle la malédiction du vainqueur, rappelle l'économiste Christophe Le Petit.
La malédiction du vainqueur, c'est que justement, vous allez miser cher dans l'optique de remporter le marché, mais vous misez tellement cher que finalement, derrière, vous avez du mal à rentabiliser cet investissement. Et donc, c'est vrai que lorsque Canal+ avait mis 600 millions d'euros toute seule pour acheter les droits télé, on s'était posé cette question-là. Est-ce que ça n'est pas trop cher ? Est-ce que ça sera rentable ?
Bon, mais à l'arrivée, est-ce que cette malédiction du vainqueur, elle va frapper Canal+ ?
Non, mais 600 millions d'euros pour les droits de la Ligue 1, c'est quand même très... très cher. Et c'est à ce moment-là, vers 2004, que Canal se rend compte qu'il est pris dans une spirale infernale. Et la Ligue comprend également que le temps de la collaboration et du partenariat est terminé. C'est ce que m'a raconté Arnaud Simon, un spécialiste du secteur, ancien directeur général d'Eurosport notamment.
C'est « Je t'aime moi non plus » avec Canal, parce que Canal a fait un boulot extraordinaire pour le foot. Canal a eu son lot aussi d'arrogance et a sa capacité d'être dominant. Et la Ligue a toujours eu ce rapport en se disant « Mais c'est presque au syndrome de Stockholm, quoi. Je suis dans les mains de quelqu'un qui crée de la valeur pour mon produit, mais j'arrive pas à m'en extirper, j'arrive pas à m'en sortir. »
Et pour s'en sortir, la Ligue de football va montrer à Canal+ qu'ils ne sont plus tout seuls.
Oui, et pour ça, 4 ans plus tard donc, alors que les droits du foot sont de nouveau mis en vente, la Ligue va aller chercher un concurrent à Canal+, comme elle va le faire dorénavant à chaque appel d'offres. Et comme à l'époque, il n'y a plus de chaîne de télévision capable de concurrencer Canal, la Ligue va aller le chercher, ce concurrent, dans le secteur des télécoms. C'est Orange qui arrive sur le marché et qui se positionne sur l'appel d'offres de 2008.
Mais quel rapport entre Orange et le foot ? Leur métier, c'est plutôt de vendre du téléphone et de l'Internet, non ?
Oui, mais à l'époque, le calcul, c'est que avec le foot, ils arriveront à vendre plus d'Internet et plus de téléphones, ce qui finalement ne s'est pas réalisé, analyse Arnaud Simon.
Orange a monté plusieurs chaînes Orange Sport et au bout d'un moment, ils ont arrêté les frais parce qu'ils s'apercevaient qu'ils dépensaient beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il n'a jamais été démontré que de tels investissements puissent se transformer en recrutement en nombre suffisant pour justifier l'investissement qu'on met dans des droits.
Donc finalement, Orange s'en va et c'est Canal+ qui reste.
Oui, et ça commence à devenir très problématique. Parce que les clubs de foot sentent bien qu'ils sont à la merci d'une baisse des droits télé, comme l'admet le président de la Ligue, Frédéric Thirier, au micro de France Inter en août 2011.
Nous sommes beaucoup trop télédépendants, comme on dit. 57% des ressources de nos clubs proviennent des droits télé. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui les recettes de stade représentent à peine 15% du budget de nos clubs. C'est le double en Angleterre, c'est le double en Allemagne. D'où le programme de rénovation des stades. Mais ça va prendre du temps. Nous avons 3 années difficiles. Voilà, en résumé, jusqu'à 2015, où les stades se feront sentir sur les ressources des clubs.
Trop de télédépendance, dit le président de la Ligue en 2011, mais est-ce que ça a changé depuis ?
Pas du tout. La situation est toujours exactement la même aujourd'hui. Le football français est devenu complètement dépendant des droits TV et pour augmenter ses revenus, il doit sans cesse aller chercher des concurrents pour pousser Canal+ à miser encore plus. C'est ce qu'il va faire donc de nouveau en 2011. Et comme cette fois-ci, il n'y a plus personne en France capable de concurrencer Canal, il va contacter d'abord une grande chaîne américaine, puis l'État du Qatar et sa chaîne Bein Sport, comme l'a raconté Christophe Le Petit.
À ce moment-là, la LFP a cherché à faire rentrer un nouvel acteur. Et donc la LFP a beaucoup dragué ESPN, l'opérateur américain. Et finalement, ce n'est pas ESPN qui est venu en 2012, c'est Bein Sport. Bein Sport, arrivé sur le marché français, dans le sillage de QSI au Paris Saint-Germain, et donc qui est venu concurrencer Canal+, et ce qui a contribué à faire réaugmenter le montant des droits télé.
Et on le précise, QSI, c'est le fonds d'investissement sport du Qatar, actionnaire principal du PSG. Donc, les Qataris et la chaîne Bein Sport entrent dans le jeu. Et du coup, Sylvain, est-ce que les droits télé augmentent ?
Alors oui, mais pas tout de suite. Dans un premier temps, ça n'augmente pas. Les Qataris investissent peu, entre guillemets, au départ. À l'appel d'offres de 2011, le total des droits payés par Canal et Bein est même en légère baisse pour la Ligue. Du coup, 3 ans plus tard, nouvel appel d'offres, et là, Frédéric Thirier, le président de la Ligue, annonce la couleur de l'argent en l'occurrence.
La France a subi une baisse de ses droits télé de la Ligue 1 sur la période 2012-2016. Donc ce que je peux vous dire, c'est que non seulement il faut que nous rattrapions cette baisse, mais que nous fassions un bien meilleur résultat, je dis bien bien nettement meilleur, et que nous nous rapprochions le plus possible de nos concurrents.
Oui, il place la barre très haut, on l'entend. Se rapprocher de nos concurrents, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire tenter de rattraper les championnats anglais, italiens, espagnols et allemands qui dégagent déjà beaucoup plus de revenus que le championnat français. Mais à ce moment-là, la Ligue espère qu'elle va bénéficier à plein de la concurrence qui s'est exacerbée entre Canal+ et Bein Sport. Bein a pris les meilleures affiches de Ligue des Champions, elle menace de prendre celle de Ligue 1 aussi, et Canal+ a beaucoup de mal à contrer ce concurrent qui perd beaucoup d'argent, mais qui a derrière lui l'État du Qatar.
Oui, donc clairement, à ce moment-là, Canal+ est en difficulté.
Oui, et comme d'habitude, le groupe va agir sur le terrain politique et au plus haut niveau. Les dirigeants de Canal vont obtenir l'intervention du président de la République auprès de l'émir du Qatar. François Hollande l'a lui-même raconté aux journalistes Fabrice Lhomme et Gérard Davé dans leur livre « Un président ne devrait pas dire ça » dont nous avons fait lire un extrait.
J'ai appelé l'émir du Qatar, je lui ai dit « On vous a défendu par rapport aux Saoudiens, on est à vos côtés. Mais il y a aussi l'histoire du foot, je souhaite qu'il y ait un partage. »
François Hollande demande aux Qataris de partager les droits télé avec Canal+. C'est plutôt étonnant comme situation. Et finalement, est-ce qu'il obtient gain de cause ?
Oui, beIN va retenir ses coups et laisser à Canal la majorité de la Ligue 1. Le total des droits bat un nouveau record, 750 millions par saison, mais on sent bien à l'époque qu'il s'est passé quelque chose. Et cette histoire, quand elle sera dévoilée, va rendre fou furieux les présidents de clubs. Ils estiment que l'intervention de François Hollande leur a fait perdre beaucoup d'argent et ça va vraiment leur rester en travers de la gorge.
Et puis ce qu'il faut dire aussi, Sylvain Tronchet, c'est qu'au même moment, la Ligue de football est en pleine crise.
Oui, les présidents des grands clubs veulent se débarrasser du président, Frédéric Thirier. Ils obtiennent donc la nomination d'un directeur général de la Ligue au pouvoir très étendu. Cet homme, c'est Didier Quillot, un ancien dirigeant de chez Orange et Lagardère notamment. Et il lui fixe un objectif, la prochaine négociation des droits TV doit rapporter au moins 1 milliard d'euros.
1 milliard, et là on franchit encore un cap, et comment il va faire alors Didier Quillot ?
Eh bien comme ses prédécesseurs, il va aller chercher un nouvel acteur pour concurrencer Canal. Et comme maintenant il n'y a plus de chaîne de télé capable de concurrencer le groupe français, il va aller, dans le plus grand secret, rencontrer Mediapro. Et pour pousser ce groupe espagnol à entrer sur le terrain, Didier Quillot va changer les règles du jeu, comme l'explique Pierre Mas, un spécialiste des droits TV du sport, un ancien directeur des programmes de Canal+ en Belgique.
Didier Quillot, le patron de la Ligue, a pris contact avec Mediapro. Il les a vus plusieurs fois et il sait que Mediapro va faire une offre. Et donc il fait insérer dans cet appel d'offres une clause par laquelle les acheteurs auront la possibilité de ce qu'on appelle dans notre jargon de sous-licencier les droits, c'est-à-dire de les revendre à quelqu'un d'autre, ce qui n'était pas prévu dans les précédents appels d'offres, et qui est clairement une clause pour attirer Mediapro.
Donc Mediapro peut revendre ses droits à quelqu'un d'autre, et là on franchit encore une étape, mais cette société espagnole, est-ce qu'elle est vraiment connue du monde du football ?
Oui, elle est connue, mais justement plutôt comme une agence de gestion de droits, c'est-à-dire quelqu'un à qui vous confiez vos droits et qui va se charger derrière de les commercialiser, de les revendre. Ils ont aussi une activité de production de séries, de films, les films de Woody Allen notamment, mais aussi de production de programmes sportifs, mais qu'ils produisent pour les autres. Mediapro, ce n'est pas un diffuseur. Toujours est-il que c'est bien ce groupe espagnol qui remporte 80% de la Ligue 1 le 29 mai 2018. Canal+ est rayé de la carte du football français. Et l'hommage que lui rend Didier Quillot ce jour-là ne trompe personne. Canal, c'est fini.
Canal+ a joué un rôle essentiel dans l'amélioration de l'attractivité de notre sport. Les LFP et l'ensemble des clubs professionnels tiennent à remercier Canal+ pour son travail remarquable au service du football depuis 34 ans.
Oui, la LFP, la Ligue de football, ça ressemble effectivement un peu à une oraison funèbre. Et comment va réagir Canal+ ?
Ah bien, pour eux, pas question d'en rester là. Nous sommes en 2018, en fait. Or, les droits achetés par Mediapro ne débutent qu'en 2020. Chez Canal, on commence donc à installer l'idée que 1 milliard, c'est beaucoup trop, que Mediapro ne pourra pas payer. Et nous ne sommes pas morts, affirme le patron de Canal, Maxime Saada, devant une commission du Sénat en juin 2018.
Moi, je ne considère pas que c'est un échec, je considère que c'est un succès. S'il y a quelqu'un en France qui sait combien ça vaut, combien on peut faire payer les gens, c'est Canal+. Investir plus que ce qu'on a mis dans cette compétition et emporter potentiellement les droits pour 1 milliard ou les 780 millions d'euros de Mediapro, c'était la mort immédiate, quasi immédiate du groupe Canal+. Donc on ne peut pas parler pour moi d'échec. Nous considérons que nous avons fait le choix de la survie.
Le choix de la survie pour Canal+, qu'est-ce qu'il veut dire par là ?
Eh bien que le modèle Mediapro n'est pas viable. Les Espagnols disent qu'ils vont créer une chaîne payante et qu'ils auront assez d'abonnés pour être rentables. Il leur en faut 3,5 millions à 25 euros par mois. Ça paraît très ambitieux, très risqué. En fait, la stratégie de Mediapro était probablement plutôt de revendre les droits au groupe de Vincent Bolloré, comme le raconte le spécialiste des droits Pierre Mas.
L'objectif premier, c'était de revendre les droits avec la plus grande plus-value possible à Canal, évidemment. Et je pense que le risque n'était pas aussi dingue que ça, qu'ils auraient très bien pu y arriver. Et puis, ils se sont heurtés à Vincent Bolloré, qui va tout faire pour ne pas se laisser avoir par ce que j'appelle « the greater fool theory », qui consiste pour une agence à acheter des droits très très chers et puis à trouver un plus con qu'elle pour les lui racheter encore plus cher. Et je pense que Vincent Bolloré n'avait pas du tout envie d'être le plus con de l'histoire.
Donc, si je comprends bien, Canal+ aurait refusé d'entrer dans le jeu de Mediapro.
Oui, et surtout, Canal va profiter d'une chose. C'est que, souvenez-vous, Mediapro n'a que 80% de la Ligue 1. Les 20 autres pourcents, ils ont été achetés par beIN Sports. Or, dorénavant, beIN a de bonnes relations avec Canal. Canal distribue beIN, notamment. Et Canal va donc racheter les droits de beIN. 330 millions. Du coup, Canal peut toujours afficher de la Ligue 1 à son catalogue, de très bonnes affiches. Et là, c'est le début de la fin pour Mediapro, explique Arnaud Simon.
À ce moment-là, c'en était fini. La source était tarie, comme aurait dit Marcel Pagnol, terminé. Mediapro n'avait plus aucun moyen d'avoir un retour sur investissement en sous-licenciant ses droits. Clairement, cet accord entre beIN et Canal sifflait la fin de la récré et la mort du modèle Mediapro, qui était à 80% le modèle économique de la Ligue.
Oui, donc, en rachetant les droits à beIN Sport, Canal+ déstabilise en fait Mediapro, et du coup, c'est un peu tout le modèle économique de la Ligue qui se casse la figure.
Exactement, et à partir de là, eh bien, Mediapro n'a plus qu'une solution, exploiter elle-même les droits en créant sa chaîne, qui va s'appeler Téléfoot. Problème, on l'a dit, Mediapro a payé tellement cher les droits que rentabiliser une chaîne qui n'a uniquement que la Ligue 1 à son catalogue, ça paraît impossible, du coup tout le monde s'inquiète. Et certains dirigeants, comme Pierre Ferracci, le président du Paris FC, un club de Ligue 2, se demandent si la Ligue, la LFP, a bien pris une garantie de paiement.
La question de la garantie a été posée tout de suite. Et la réponse qui a été faite de façon très explicite, c'est que le directeur général de la LFP a laissé entendre très clairement qu'il y avait une garantie sur la première année et qu'on travaillait sur la garantie pour les années suivantes. Donc il y avait au moins ce sas de la première année qui était pour tous les présidents de club garanti.
Donc la Ligue affirme qu'elle a pris ses précautions, en tout cas pour la première année.
Oui, et il ne faut surtout pas dire le contraire. À l'époque, certains présidents expriment leurs inquiétudes, au moins leurs interrogations dans la presse. Mais ils se font immédiatement recadrer par Didier Quillot, le directeur général de la Ligue, comme me l'a raconté l'ex-président de Clermont, Claude Michy.
J'avais simplement dit qu'il fallait environ 4 millions d'abonnés, que l'avenir pouvait paraître incertain pour Mediapro, mais il faut espérer que tout se passe bien. Bon. Et là, j'avais été harponné par Didier Quillot, qui m'avait envoyé un mot en disant que je véhiculais un message d'inquiétude, ceci et cela.
Mais cet ancien président de club aurait véhiculé un message d'inquiétude concernant Mediapro. Ce qu'on entend, c'est que la Ligue n'a pas trop envie qu'on questionne la fiabilité du groupe espagnol. Mais est-ce qu'elle a des garanties par rapport à ça?
Eh bien, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a eu aucun audit poussé sur la solidité financière de Mediapro. C'est ce qu'a constaté le député En Marche Cédric Roussel, président du groupe d'études économie du sport à l'Assemblée nationale, qui a auditionné certains des acteurs de cette histoire.
Il n'y a pas eu d'audit financier de chacun des candidats, et en l'occurrence ici, pour parler directement, de Mediapro, qui était le nouvel entrant principal dans cet appel d'offres. C'est assez surprenant, parce que c'est un principe même de base lorsqu'on souhaite contractualiser une relation avec un nouveau partenaire. Mais ça s'est peut-être contenté d'un slide ou deux, mais qui n'a pas donné lieu à une mission plus sérieuse que ça.
Pas d'examen sérieux des finances de Mediapro donc, mais cette histoire est loin d'être terminée, restez avec nous. On va voir dans quelques instants que Mediapro a aussi quelques casseroles qui auraient pu alerter les autorités du foot.
Between an Aussie couple escalate, strawberry cheeks flush with defeated rage. Then he spilled his coffee as he frantically explained. Screaming. Love, love, I swear to God I try.
sky as she ran, panicking and weaving through the crowds on Oxford Street. Watched his world dissolve in his hands, tried to roll a blend and put his head between his knees. Stop her leaping.
Caroline, la voix captivante de la jeune prodige anglaise Arlo Parks, extrait de son premier album Collapsed in Sunbeam.
France Inter. Secret d'info. Benoît Colomba.
Retour à notre enquête dans les coulisses du fiasco Mediapro avec vous, Sylvain Tronchet. On a vu que la Ligue française de football n'avait aucune garantie sur la solidité financière du groupe espagnol. Mais ça ne s'arrête pas là.
Oui, effectivement, parce qu'au moment où Mediapro décroche les droits télé en France, en 2018, quelques jours plus tard, elle est mise à la porte par les autorités du foot italien, dont elle avait aussi acheté les droits peu de temps avant, faute, vous savez quoi, faute de garantie bancaire, comme l'explique la journaliste italienne Valentina Clemente.
Mediapro, à la fin du mois d'avril, n'avait pas présenté la garantie bancaire des 1,2 milliard. Donc, la Ligue a annulé l'engagement avec Mediapro, qui a tout essayé pour rester. Ils disaient qu'ils allaient présenter l'argent, voilà, mais finalement, ils n'ont pas réussi à donner les garanties et tout a été remis en vente.
Voilà, les droits télé ont été remis en vente en Italie et tout ça, ça n'a pas mis la puce à l'oreille aux Français ?
Non, pas plus que la Ligue ne s'est inquiétée quand l'agence de notation Moody's a commencé à considérer que la dette de Mediapro devenait problématique au printemps 2020. En fait, la Ligue, elle semble s'être contentée des paroles du patron de Mediapro, le catalan Jaume Roures, qui affirmait en français fin 2019 que sa société était solide.
Cette question que beaucoup de gens ne savent pas si on paye ou on ne paye pas. Comme on est des salariés et on paye toujours.
On paye toujours, voilà. Ça, c'est le discours tenu fin 2019. Et puis, arrive la crise du Covid, qui correspond aussi maintenant, on le sait, au moment où Canal+ rachète les matchs de beIN Sport, au moment où Mediapro comprend qu'il n'y aura pas d'accord avec Canal. Et là, le discours de Jaume Roures commence à inquiéter les présidents de clubs comme Pierre Ferracci, le dirigeant du Paris FC.
On sent très vite que Roures cherche déjà des alibis. Avec cette crise sanitaire, il le dit dès le début, je crois que c'est à la fin mars ou au début avril, les tarifs seront revus à la baisse prochainement. Et il dit une deuxième chose, un peu plus tard. On parle à un moment donné du départ de Neymar ou du départ de Verratti. Il ne faudrait pas que la Ligue 1 perde ses meilleurs atouts, ses meilleurs joueurs, parce que le championnat s'en trouvera dévalorisé. Et à ce moment-là, je peux vous dire qu'on est un certain nombre de présidents à se dire « Oula !» La crise sanitaire à bon dos, on prépare le terrain. À ce moment-là, d'ailleurs, certains présidents commencent à être informés de ce qui s'est passé aux États-Unis, où les dirigeants de Mediapro ont été accusés de corruption. Et ça contribue à semer un peu plus le doute.
Sylvain, qu'est-ce que c'est que cette histoire de corruption aux États-Unis ?
Ah bien, en fait, il est un fait que Mediapro a corrompu le président de la Fédération nord-américaine de football pour obtenir des droits TV d'éliminatoire de la Coupe du Monde. Et pour échapper aux poursuites, la société a payé plus de 20 millions d'euros à la justice des États-Unis, mais l'un de ses anciens dirigeants, lui, est toujours poursuivi. Mediapro, c'est une société aux méthodes particulières quand même, qui n'hésite pas non plus à contester ses contrats. C'est arrivé dans le passé en Espagne, et c'est ce qui s'est passé en France. Jaume Roures annonce qu'il veut renégocier. Mediapro cesse de payer, négocie une sortie, et le 8 février dernier, eh bien, la chaîne Téléfoot cesse d'émettre après seulement 4 mois d'existence.
Nous vous souhaitons à tous une très belle fin de saison de football. À vous tous qui nous avez suivis, à l'ensemble du monde du football. Téléfoot, la chaîne, c'est fini. À bientôt.
Mediapro a donc échoué dans son pari hautement risqué, mais est-ce que d'une manière ou d'une autre, la crise du Covid a précipité sa chute ?
Probablement, mais le Covid a aussi bon dos quand même. Hein. On sait aujourd'hui que Téléfoot, hein, la chaîne qu'ils ont créée, avait à peine 100 000 abonnés à son lancement, et je vous rappelle qu'il en aurait fallu 3,5 millions hein, pour pouvoir rentabiliser. On en était très loin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les habitudes des amateurs de foot changent. Ils passent plus de temps sur les réseaux sociaux, plus de temps sur Netflix, et donc regarde de moins en moins le sport en direct à la télé, explique le spécialiste du secteur, Arnaud Simon.
Déjà avant le premier confinement, les audiences moyennes du sport en direct étaient en baisse, environ 15%. Le direct devient un mode de consommation événementiel du sport, et non plus un mode de consommation régulier. Ça veut dire que, oui, vous allez regarder le match de l'équipe de France de foot, le reste du temps, vous allez consommer différemment. Parce que tout simplement, vous n'avez plus le même temps de passion disponible à regarder du sport. Encore moins qu'avant, vous êtes prêt à dépenser beaucoup d'argent pour regarder tout le feuilleton ou toute la série de votre équipe.
Et face à la concurrence des plateformes, on l'a compris, en fait, c'est tout le modèle économique des chaînes de foot payantes qui est menacé.
Oui, et il est menacé aussi par un autre phénomène. Le piratage. Hein. De plus en plus de fans de foot piratent les retransmissions grâce au live streaming, hein, des sites internet qui diffusent les chaînes payantes, ou grâce à ce qu'on appelle l'IPTV, des petits boîtiers ou des applications que vous achetez pas cher à des pirates et qui vous donnent accès chez vous à toutes les chaînes du monde. Un phénomène qui est loin d'être marginal, m'a expliqué Pauline Blassel, la secrétaire générale de l'ADOPI, la haute autorité qui lutte contre le piratage.
Sur le live streaming, on avait en décembre 2020 un peu plus de 3 millions de personnes, ce qui faisait une augmentation de 20% quand même par rapport à l'année précédente, ce qui est énorme, quoi. Et sur l'IPTV, là aussi, on avait à peu près 3 millions de personnes qui déclaraient y avoir recours. Les deux s'additionnent pas, évidemment, souvent les gens ont les deux en même temps. Mais ça fait quand même bien 4 millions de personnes qui à peu près tous les mois vont regarder des compétitions sportives de façon illicite.
4 millions de pirates du sport, c'est considérable.
Oui, on estime par exemple qu'il y avait probablement plus de spectateurs pirates que de spectateurs payants devant le dernier OM-PSG. La conclusion de tout cela, c'est que l'échec de Mediapro est aussi celui d'un secteur menacé dans son modèle de financement. Un secteur qui a pris beaucoup de risques, qui a refusé jusqu'au bout de se remettre en question et qui doit impérativement se réformer aujourd'hui, estime l'économiste du sport Christophe Lepetit.
Le modèle que nous avons aujourd'hui peut nous conduire dans le mur. Il est probable qu'aujourd'hui, ce soit le bon moment pour penser à une nouvelle régulation du football professionnel français. Il faut une nouvelle régulation du capital, des masses salariales, une régulation financière. Et puis, il faut aussi penser la façon dont on propose les droits du football demain, parce que l'économie des droits pourrait s'effondrer si jamais on ne s'adressait pas de la bonne façon aux consommateurs de demain. Et si jamais on n'endiguait pas un phénomène massif qui est le phénomène du piratage sportif.
Voilà donc un gros chantier en perspective pour le football français. Et je précise que nous avons contacté la Ligue de football, Didier Quillot et Mediapro, mais qui n'ont pas souhaité nous répondre. Merci Sylvain Tronchet. Alors on peut évidemment réécouter votre enquête sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Rendez-vous également sur la page Facebook de la cellule investigation de Radio France et sur Twitter Investigation RF. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique, il y avait Philippe Duclos. Excellent week-end et à samedi prochain.